Chapitre 6. Malta. Tout se serait parfaitement bien passé sans ce gros imbécile de Davad Restart. Malta avait trouvé l'argent sous son oreiller le matin où son père avait repris la mer. Elle avait reconnu les pattes de mouche des missives que sa mère recevait de temps en temps quand il était en voyage. « Pour ma fille, qui n'est plus si petite que cela, avait écrit papa, de la soie verte lui irait à merveille. » Il y avait 4 pièces d'or dans la petite bourse. Malta ignorait ce qu'elle valait exactement, car c'était des monnaies étrangères venues d'un des pays qu'il avait visités pendant ses expéditions commerciales. En revanche, ce dont elle avait été aussitôt certaine, c'est qu'elle suffirait pour la robe la plus somptueuse qu'on ait jamais vue à Terrilleville. Les jours suivants, dès que le doute la saisissait, elle relisait le petit mot pour s'assurer qu'elle avait bien la permission de son père. Non seulement la permission, mais le soutien aussi. L'argent en était la preuve tangible. Plus tard, d'un ton lugubre, sa mère devait parler de connivence. Quelle était prévisible, sa mère! Comme sa grand-mère qui avait refusé de participer à l'offrande des moissons sous prétexte qu'elle portait le deuil de grand-père. Sa mère avait évidemment sauté sur l'occasion pour lui annoncer qu'aucun membre de la famille Westrit n'irait au bal cette année et qu'en conséquence, il n'y avait plus à discuter de toilettes ni de robes, qu'elles soient d'enfants ou de femmes. Elle lui faisait donner des cours de danse par Rack et en lui cherchait un bon professeur de maintien. En attendant, Rack s'occuperait de ce domaine aussi et c'était plus que suffisant pour une jeune fille de son âge. Le ton sévère de sa mère avait étonné Malta. Quand elle avait trouvé le courage de répondre, « Mais papa a dit !» Kefria s'était avancée vers elle avec dans les yeux comme de la fureur. « Ton père n'est pas ici !» avait-elle déclaré d'un ton glacial. « Moi, si. Je sais ce qui convient à une jeune fille de Terrilleville. Et tu devrais le savoir aussi. Malta, tu as tout le temps de devenir une femme. » Il est naturel que tu sois curieuse de ces choses et que tu rêves de superbes robes, de merveilleuses soirées passées à danser avec de beaux jeunes gens. Mais par excès de curiosité ou de hâte, tu pourrais bien te retrouver sur la même pente que ta tante Althea. Alors fais-moi confiance. Quand le temps sera venu, je te le dirai. De plus, le bal des moissons, ce ne sont pas seulement de jolies robes et des jeunes hommes aux yeux brillants. « Je suis une habitante de Terrilleville. Je fais partie des marchands de Terrilleville. Et je connais le dessous des cartes. Pas ton père. Aussi, reste calme à ce sujet ou tu risques de perdre tout ce que tu as acquis. » Là-dessus, sa mère était sortie à grands pas de la salle du petit-déjeuner sans même laisser à Malta le temps de discuter. La jeune fille s'en serait d'ailleurs bien gardée. Cela aurait été inutile et n'aurait servi qu'à éveiller chez sa mère suspicion et vigilance. Pas la peine de se compliquer la tâche. Son père avait suggéré de la soie verte. Or, par bonheur, il y en avait toute une réserve dans le coffre de marin de tante Althea. Malta mourait d'envie de savoir ce qui s'y cachait depuis qu'on l'avait livrée à la maison. Mais sa mère lui avait dit d'un ton las que cela ne la regardait pas. Cependant, le coffre n'était pas fermé à clé, tant Althea oubliait toujours de tout verrouiller. Et comme elle ne s'en servirait sûrement jamais, Malta ne voyait pas l'intérêt de laisser ce tissu se faner dans sa boîte. Et puis, en l'utilisant, elle aurait davantage d'argent pour s'offrir une meilleure couturière. Elle se montrait économe, tout simplement. Son père ne lui avait-il pas répété que c'était une qualité chez une femme? Auprès de Dilo Trell, elle avait obtenu le nom d'une bonne faiseuse. Elle avait eu un peu honte de devoir s'adresser à son amie. Mais même dans un domaine aussi important, sa mère et sa grand-mère étaient d'un démodé. Leurs robes étaient presque toutes faites à la maison par Nounou, qui s'occupait des mesures, des essayages et de la couture, avec parfois même l'aide de maman et de grand-mère qui cousaient et ourlaient de leurs propres mains. Évidemment, rien de ce qu'elle portait n'était du dernier cri à Jamelia, ça non. Ah, bien sûr! Quand elle voyait une robe qui leur plaisait au bal ou à la présentation, elle la copiait. Mais cela ne restait toujours qu'une imitation. Nul n'était jamais surpris par ce que portaient les femmes de la famille Westrit lors d'une réception. Nul ne ragotait sur elle, nul ne se penchait vers sa voisine pour échanger à leur propos des commentaires envieux derrière un éventail. Elles étaient trop respectables et surtout trop ternes. Eh bien, Malta n'avait pas l'intention de devenir rassise comme sa mère vieillie avant l'âge, ni homasse comme ce cheval échappé de tante Althea. Non, elle se voulait mystérieuse, magique, farouche, réservée, énigmatique et néanmoins audacieuse et extravagante. Il n'avait pas été simple d'expliquer tout cela à Feyla, la couturière, femme malheureusement âgée qui avait émis un claquement de langue désapprobateur devant la soie verte que lui apportait Malta. « Ça va vous donner un ton plombé » avait-elle déclaré en secouant sa tête aux cheveux gris. « Rose, rouge et orange, voilà vos couleurs !» Avec son fort accent de Dourja, on eût dit qu'elle venait de rendre un jugement définitif. Malta avait pincé les lèvres sans répondre. Son père était un marchand qui avait vu le vaste monde. Il savait sûrement quelle teinte allait le mieux à une femme. Ensuite, Feyla avait passé un temps interminable à prendre ses mesures tout en marmonnant, la bouche pleine d'épingles. Elle avait découpé des patrons qu'elle avait piqués partout sur Malta, sans prêter la moindre attention aux protestations de la jeune fille qui trouvait le col trop montant et le bas trop court. La troisième fois que Malta s'était plainte, Feyla Cariole avait craché ses épingles dans le creux de sa main et l'avait foudroyée du regard. « Vous voulez avoir l'air d'une catin? D'une catin à la peau jaunâtre ?» avait-elle fait d'un ton sec. Malta avait secoué la tête. « Une catin? C'était une plante, non ?» Elle essaya en vain de se rappeler à quoi ressemblaient ses fleurs. « Alors, écoutez-moi, je vais vous fabriquer une jolie robe, une robe que votre maman et votre papa me paieront avec plaisir. D'accord? Mais j'ai apporté l'argent. C'est mon argent à moi. Et je veux une robe de femme, pas un sarrau pour les enfants. » Malta gagnait en hardiesse à chaque mot qu'elle prononçait. Feyla Cariole s'était lentement redressée en se massant le dos. « Une robe de femme? Et qui va la porter? Vous ou une femme? Moi !» Malta avait fait un effort pour conserver un ton ferme. Feyla s'était gratté le menton. Un poil y poussait sur un grain de beauté qui ressemblait à une verrue. Elle avait secoué la tête. « Non, vous êtes trop jeune. Vous aurez l'air ridicule là-dedans. Si vous m'écoutez, je vous ferai une jolie robe comme aucune autre petite fille n'en aura. Elles n'auront Dieu que pour vous, et elles parleront de vous à l'oreille de leur maman. » Sans prévenir, Malta avait arraché le patron de papier épinglé sur elle. « Ce n'est pas le regard des petites filles que je veux attirer !» avait-elle dit d'un ton hautain. « Je vous souhaite le bonjour !» Et elle avait quitté la boutique, sa soie verte sous le bras. Elle avait descendu la rue à la recherche d'une autre couturière qui l'écouterait, celle-là. À contre-cœur, elle se demanda si Dilo Trel avait fait exprès de l'envoyer chez cette affreuse vieille, si Dilo ne pensait pas qu'elle ferait trop gamine pour porter autre chose que des jupes d'enfant. Ces derniers temps, son amie s'était mise à prendre de grands airs, à sous-entendre avec condescendance qu'il y avait bien des aspects de son existence que Malta, la petite Malta, n'était pas en mesure de comprendre, alors qu'elles jouaient ensemble depuis qu'elles avaient l'âge de marcher. Territle, la jeune faiseuse choisie par Malta, créait ses propres jupes et les portait comme s'il s'agissait de voiles de soie qui collaient à ses jambes tout en les dénudant. Sans chipoter sur la couleur du tissu, ni chercher à étouffer la jeune fille sous des patrons en papier, elle avait rapidement pris ses mesures tout en parlant de manches papillons et de l'effet flatteur de volants de dentelle sur une gorge encore juvénile. Malta avait su alors qu'elle avait tiré le bon numéro. Et c'est d'un pas presque bondissant qu'elle était rentrée chez elle, où, pour excuser son retard, elle avait prétendu ne pas avoir trouvé de cabriolet libre. De cette seule décision de dénicher une couturière par ses propres moyens avait découlé toute sa bonne fortune. Territle avait un cousin qui fabriquait des escarpins. Elle avait envoyé Malta chez lui quand la jeune fille était venue la voir pour le second essayage. Puis, elle lui avait fait remarquer qu'elle aurait aussi besoin de bijoux, tout en soulignant que leur authenticité comptait moins que leur scintillement et leur éclat. Du verre taillé ferait aussi bien l'affaire que de véritables pierres précieuses, et la somme dont elle disposait lui permettrait de s'offrir des pièces plus grosses et plus brillantes. Elle avait également une cousine dans cette branche qui avait présenté sa marchandise à Malta lors du troisième essayage. Et quand la jeune fille était venue essayer sa robe une dernière fois, escarpins et bijoux étaient là, prêts à être emportés eux aussi. Enfin, Territle lui avait aimablement appris à se maquiller à la dernière mode et lui avait même vendu certains de ses fards et poudres personnelles. On n'aurait pas pu se montrer plus serviable. « Je ne regrette pas mon argent. Vous m'avez permis de réaliser mon rêve, point par point !» lui avait déclaré Malta avec gratitude en lui remettant la bourse d'or que son père lui avait laissée. Cela se passait 2 jours à peine avant le bal des moissons. Accomplissant un exploit de hardiesse et d'invention, elle avait réussi à rentrer chez elle avec la robe empaquetée sans se faire voir ni de sa mère ni de Nounou. La vieille femme n'avait plus assez à faire. Depuis que Seldon était en âge d'avoir des précepteurs et n'avait plus besoin qu'on le surveille constamment, Malta avait l'impression que Nounou passait son temps à la tenir à l'œil. Quand elle prétendait « ranger » sa chambre, c'était en réalité pour fouiller ses affaires. Et elle lui posait sans cesse des questions sur des sujets qui ne regardaient pas une vieille domestique. « Où avez-vous trouvé ce parfum ? Votre mère sait-elle que vous portez ces boucles d'oreilles en ville ?» Pour finir, Malta avait trouvé une solution toute simple. Elle avait ordonné à Rack de cacher robes, bijoux et escarpins chez elle. Sa grand-mère venait de l'installer dans une petite maison qui donnait sur le jardin au bassin. Malta ignorait ce que Rack avait fait pour mériter cet espace privé, mais cela lui était bien utile. Nul ne voyait rien à redire à ce qu'elle passa du temps en sa compagnie. Après tout, Rack ne lui enseignait-elle pas la danse et le maintien ? Naturellement, il était comique qu'une esclave connût ces choses, et Dilo et Malta en riaient souvent lors de leurs brèves rencontres, du moins avant que Dilo se crût trop grande pour perdre son temps avec une petite comme Malta. Eh bien, cela changerait dès que Malta se présenterait au bal de l'offrande des moissons. C'était aussi Rack qui l'avait aidé à s'habiller le soir du bal. Malta ne l'avait pas prévenu à l'avance, de peur que l'esclave ne réfléchisse puis court tout raconter à sa mère ou sa grand-mère. Non, elle s'était simplement rendue chez elle, avait demandé son paquet, puis ordonné à Rack de lui donner la main pour se vêtir, et la femme avait obéi, un étrange sourire sur les lèvres. C'est alors que Malta avait pris la pleine mesure de l'utilité d'une esclave docile. Une fois bien serrée dans sa robe, elle s'était assise devant le petit miroir de Rack pour fixer ses bijoux l'un après l'autre, puis se maquiller avec soin les yeux et les lèvres. Comme la couturière le lui avait montré, elle avait souligné le contour de ses oreilles d'un trait de la même couleur que celui de ses yeux. L'effet était à la fois spectaculaire et séduisant. L'esclave avait paru complètement sidérée. Elle était sans doute stupéfaite que Malta possédât les talents d'une femme adulte. Quand le cabriolet commandé par Malta un peu plus tôt dans la journée était arrivé à sa porte, Rack avait paru à peine troublé. Où se rendait donc sa jeune dame ? « À une soirée chez Haret Choyev », avait répondu Malta. Son père et sa mère avaient fait venir un montreur de marionnettes pour les divertir, son petit frère et elle, pendant qu'il serait au bal des moissons. Tout le monde savait que Haret souffrait encore de la cheville à la suite de sa chute de poney, et Malta s'en allait lui remonter le moral. Si elles devaient toutes deux manquer le bal, autant le faire ensemble. Malta avait menti avec une désinvolture et une assurance absolue, et Rack l'avait cru. Elle avait hoché la tête en souriant et répondu que, sans nul doute, Haret se divertirait fort. Le seul point noir avait été la sombre cape d'hiver que Malta avait dû porter par-dessus sa robe pour se rendre au bal. Elle n'allait pas avec une tenue aussi raffinée. Mais la jeune fille ne voulait pas salir sa robe en chemin, et elle ne souhaitait pas qu'on la vît avant qu'elle n'arrivât à la réception. Un cabriolet n'était pas le moyen de transport traditionnel pour se rendre au bal. Chacun aurait pris sa voiture personnelle ou se présenterait sur sa plus belle monture. Mais elle n'y pouvait rien. Sa plus belle monture était le gros poney qu'elle partageait avec Seldon. En vain avait-elle supplié d'avoir un cheval à elle. Comme d'habitude, sa mère avait refusé en prétextant que, si elle tenait à monter convenablement, Elle n'avait qu'à apprendre sur la jument de sa grand-mère, laquelle jument était plus vieille que Malta. Et même si elle avait accepté de se servir de cette haridelle hors d'âge, il n'aurait pas été possible de la sortir de l'écurie à une heure aussi tardive sans que sa mère soit mise au courant. En outre, il n'aurait sans doute pas été bien séant de chevaucher avec une robe aussi légère. Mais malgré tout, malgré la lourde cape qui, par cette nuit douce, faisait perler la transpiration sur son front, malgré la chansonnette grossière que le cocher paraissait trouver comique, malgré la fureur à venir de sa mère, elle exultait.
« J'y suis !»
se répétait-elle tout bas.
« J'y suis !»
Avec une enivrante impression de pouvoir, elle avait senti qu'elle avait enfin pris en main les rênes de son existence. Elle ne s'était pas rendue compte jusque-là combien il lui pesait de rester à la maison et de jouer les petites filles modèles. Sa mère était si réfléchie, si encroûtée, si pleine d'habitude. Elle ne faisait jamais rien d'inattendu. Tout au long de l'année passée, pendant l'agonie de grand-père, la maison avait été d'un ennuyeux. Elle n'avait d'ailleurs jamais rien eu de passionnant. Ce n'était pas comme chez les autres. Certains marchands donnaient des réceptions où ils ne recevaient pas que des marchands. Quelques-uns accueillaient les nouveaux venus et leurs familles. Une fois, les Beckert avaient passé une soirée à s'amuser comme des fous grâce à une troupe de jongleurs invités par un nouveau venu. Polia Beckert avait tout raconté à Malta le lendemain. Les jeunes hommes vêtus d'un simple bout de tissu autour des reins, leur jonglerie avec des bâtons enflammés, des couteaux et des boules de verre. Rien de tel n'arrivait jamais chez les Vestrit. Naguère, grand-mère invitait de temps en temps quelques vieilles marchandes, mais elles s'asseyaient simplement dans le salon pour broder toutes ensemble, en buvant du vin à petites gorgées et en évoquant un temps où tout allait mieux. Aujourd'hui, même ces vieilles dames ne venaient plus. Quand la maladie de grand-père s'était aggravée, grand-mère avait cessé d'inviter quiconque à la maison. Et pendant presque un an, il n'y avait plus eu le moindre bruit, le moindre mouvement dans les pièces aux volets mi-clos. Maman avait même renoncé à jouer de la harpe le soir, ce qui ne manquait guère à Malta. Chaque fois, elle essayait d'enseigner la musique à sa fille, alors que rester assise à pincer des cordes n'était pas l'idée que Malta se faisait d'une soirée réussie.
« Arrêtez-vous ici »
avait-elle chuchoté au cocher, puis plus fort.
« Non, ici, arrêtez-vous ici ! J'irai à pied jusqu'à la porte. À pied, crétin !»
Il avait presque atteint le cercle de lumière que projetaient les torches quand il avait freiné le cabriolet, et il avait eu en plus l'effronterie de rire de la colère de Malta. Elle lui avait donné ce qu'elle lui devait pour le trajet et pas un sou de plus. Voilà qui devrait rabattre son caquet. Il s'était alors vengé en ne lui présentant pas sa main pour l'aider à descendre. Bah, elle n'en avait pas besoin. Elle était jeune et vive, elle n'avait rien d'une vieille dame infirme. Elle avait marché sur l'ourlet de sa robe, mais n'avait ni trébuché ni déchiré le tissu.
« Revenez me prendre à minuit !»
avait-elle ordonné au cocher d'un ton impérieux. C'était tôt pour le bal des moissons, mais même si elle ne se l'avouait qu'à contre-cœur, elle ne tenait pas à pousser le bouchon trop loin, au risque d'encourir les foudres de sa grand-mère en plus de celles de sa mère. En outre, la présentation avait toujours lieu peu après minuit. Or, Malta n'avait jamais aimé cette partie de la soirée. Elle lui donnait la chair de poule. Une fois, alors que Malta n'avait que 7 ans, le représentant du désert des pluies avait ôté son masque à cette occasion, et la petite fille était restée abasourdie devant son aspect. On eût dit un homme qui aurait commencé par être un enfant comme les autres, puis qui, en grandissant, aurait dépassé les proportions habituelles du corps humain en acquérant des os en plus, une taille supérieure à la normale et des poches de chair qui auraient pu contenir des organes inconnus. Béante d'effroi, elle avait vu son grand-père lui toucher la main en l'appelant « frère », puis lui confier la présentation de la famille Vestrit. Par la suite, lors des nombreuses nuits où l'image du représentant du désert des pluies lui avait donné des cauchemars, elle s'était rassurée en songeant au courage de son grand-père. Elle n'avait rien à redouter de tel monstre. Néanmoins,
« Minuit sonnant !»
avait-elle répété. Le cocher avait jeté un coup d'œil plein de sous-entendus aux quelques pièces qu'il tenait au creux de sa main.
« Ah, certainement, jeune maîtresse !»
avait-il fait d'un ton ironique en faisant avancer son cheval. Comme le claquement des sabots s'éloignait dans la nuit, Malta s'était sentie un instant inquiète. Et s'il ne revenait pas? Elle ne se voyait pas rentrer chez elle à pied, en pleine nuit, surtout en robe longue et en escarpins. Mais elle avait repoussé fermement cette idée. Rien ne ferait obstacle au plaisir de cette soirée. Des voitures s'arrêtaient devant la salle des marchands. Malta y était déjà entrée, mais cette fois l'édifice lui paraissait plus vaste et plus imposant. À la lueur des torches, le marbre luisait d'une teinte presque ambrée. De chaque véhicule sortaient des marchands, en couple ou en famille, tous sur leur 31. Les robes somptueuses des femmes balayaient le pavé. Les jeunes filles avaient paré leurs cheveux des dernières fleurs de l'année, et les petits garçons avaient été toilettés et s'étaient sans doute fait dûment sermonner, car ils faisaient preuve d'une politesse bien improbable à leur âge. Quant aux hommes, Malta était restée un moment dans l'ombre à les guetter d'un regard presque avide alors qu'ils descendaient de voiture ou de cheval. Elle avait promptement écarté les pères et les grands-pères pour suivre des yeux les jeunes mariés et les hommes qui étalaient leur statut de célibataire de façon flamboyante. Elle les avait observés en se demandant comment une femme savait lequel choisir. Il y en avait de toutes sortes, mais dans toute une existence, on ne pouvait en posséder qu'un, ou deux à la rigueur, si le mari mourait jeune et qu'on se retrouvait veuve à l'âge où on peut encore concevoir. Cependant, s'était dit Malta, si on aimait vraiment son époux, c'était là un espoir qu'on ne devait pas nourrir, quelle que fût la curiosité qu'on éprouvait. N'empêche, ce n'était pas juste. Là, sur le cheval noir, tirant si brusquement sur les rênes que les sabots de la bête avaient claqué sur le pavé, c'était Rhode Cairn. Ses cheveux tombaient sur son dos en un torrent obscur, aussi luisant et libre que la crinière de sa monture. Ses épaules gonflaient le tissu de son manteau taillé sur mesure. Il avait le nez aquilin, des lèvres minces, et Dilo frissonnait en parlant de lui.
« C'est un homme cruel !»
avait-elle dit un jour d'un air entendu, et puis elle avait levé les yeux au ciel quand Malta lui avait demandé ce que cela signifiait. Malta s'était sentie rongée de jalousie. Dilo savait tant de choses, et elle, rien. Le frère de Dilo invitait souvent ses amis à dîner chez elle, et Rhode en faisait partie.
Ah, pourquoi n'avait-elle pas un frère comme Serwin, qui montait à cheval, allait à la chasse et avait de beaux amis, au lieu de cette niquedouille de Yémin, avec ses robes marron et sans forme et son menton sans poils?
Elle avait suivi des yeux Rhode qui se dirigeait à grands pas vers l'entrée, et avait remarqué la façon dont il s'était brusquement écarté de son chemin, en s'inclinant profondément pour laisser une jeune femme le précéder dans la salle. Le mari n'avait pas eu l'air de beaucoup apprécier cette galanterie. Cependant, une nouvelle voiture s'était arrêtée, celle des Trentor, comme le proclamaient les armoiries sur la portière. Les chevaux blancs portaient de grandes plumes sur la tétière. Malta avait remarqué la famille descendre, les parents sagement vêtus de gris gorge de pigeon, suivies de leurs trois filles encore à marier, toutes habillées dans les tons gerbes d'or et se tenant la main, comme si elles craignaient qu'un homme vînt essayer de les séparer. Malta émit tout bas un grognement de mépris devant cette attitude timorée. Crion apparut le dernier. Il était vêtu de gris, comme son père, mais le foulard qui lui saignait la gorge était d'un or plus profond que les robes de ses sœurs, et il portait des gants blancs. Crion allait toujours ganté pour dissimuler les affreuses cicatrices qu'il gardait d'une chute dans un feu alors qu'il était enfant. Il avait honte de ses mains. Et de même, il restait modeste quant au poème qu'il écrivait. Il n'en lisait jamais en public et laissait cette tâche à ses sœurs dévouées. Il avait les cheveux châtains cuivrés, et quand il était petit, son visage était couvert de taches de rousseur comme un œuf. Ses yeux étaient verts. Dilo avait confié à Malta qu'elle pensait être amoureuse de lui. Un jour, avait-elle dit, Elle espérait se tenir devant son petit cercle d'initiés pour lire tout haut ses derniers poèmes.
« Il avait l'âme si noble !»
avait-elle murmuré avant de pousser un grand soupir. Malta avait regardé le jeune homme gravir les marches et pousser elle-même un soupir.
Elle aurait tant voulu être amoureuse, elle aussi. Elle mourait d'envie d'en savoir davantage sur les hommes, d'être capable de parler en connaissance de cause de celui-ci ou de celui-là, de rougir à la mention d'un nom ou de froncer les sourcils d'un air sévère devant le regard d'une paire d'yeux noirs.
Sa mère avait tort quand elle prétendait qu'elle avait le temps, qu'elle devait attendre d'être une femme. Les années où une femme avait le choix étaient bien trop courtes. Bien assez vite, elle se mariait et elle devenait grosse des œuvres de son mari. Malta, elle, ne rêvait pas d'un époux solide ni d'un berceau rempli.
C'était de ceci qu'elle avait envie, de ces soirées dans les ombres, de ces fins de l'âme et de l'attention d'hommes qui ne pouvaient prétendre la posséder.
Eh bien, rien de tout cela ne lui arriverait si elle restait dissimulée. D'un geste résolu, elle avait ôté sa cape, l'avait roulée en boule et fourrée sous un buisson pour la reprendre en fin de soirée.
Elle avait presque souhaité que sa mère et sa grand-mère fussent là, qu'elles arrivent en voiture à cet instant. Elle était certaine que sa coiffure n'avait pas été dérangée, que son rouge à lèvres était toujours impeccable. Pendant un petit moment, elle avait vu toute sa famille présente et son père, séduisant comme toujours, lui donnant le bras pour l'escorter dans la salle.
Mais dans cette image était apparu Yémin, le petit Yémin aux pieds en dedans, qui trottait derrière tout le monde dans sa robe marron de prêtre,
et maman, vêtue d'une robe si chaste qu'elle devait l'étouffer.
Malta avait fait la grimace.
Elle n'avait pas honte des gens de sa famille et elle aurait été ravie de les avoir auprès d'elle s'ils avaient su se tenir et s'habiller convenablement. N'avait-elle pas demandé à plusieurs reprises à sa mère de l'accompagner au bal? Cela lui avait été refusé. Par conséquent, si elle voulait commencer sa vie de femme, elle devait s'en occuper seule. Et elle affronterait cette vie avec courage, en ne laissant transparaître dans son expression qu'une ombre de la tragédie et de la solitude qui étaient les siennes.
Oh, certes, elle se montrerait gaie ce soir, rieuse et charmante.
Mais lors d'un instant de relâchement, peut-être un œil avisé la regarderait-il et percevrait-il le manque d'attention dont elle était victime chez elle, la négligence de sa famille à son égard. Elle prit une grande inspiration et se dirigea vers les torches et les portes grandes ouvertes, prêtes à l'accueillir. La voiture des Trentors s'était éloignée et une autre avait pris sa place. Malta s'était aperçue, avec un mélange de ravissement et d'effroi, que c'était celle des Trelles. Dilo devait s'y trouver, ainsi que malheureusement ses parents et son grand frère Serwin. Si Malta les saluait à leur descente, le père et la mère de Dilo ne manqueraient pas de lui demander où étaient maman et grand-mère, et elle ne se sentait pas prête à faire face à des questions gênantes.
Pourtant, quel plaisir cela aurait été d'arriver bras dessus bras dessous avec Dilo, deux jeunes femmes éblouissantes des marchands de Terrilville faisant ensemble leur entrée dans la société. Elle avait avancé d'un pas. Si ses parents et son frère précédaient Dilo, Malta aurait peut-être la possibilité de l'appeler d'un sifflement pour lui faire signe de l'attendre. Comme elle l'avait espéré, les parents de Dilo étaient descendus les premiers. Sa mère était splendide. Elle portait une robe bleu marine très simple, dont la découpe laissait à nu son cou et ses épaules, seulement ornée d'une chaînette d'argent d'où pendaient des pierres à parfum. Ah, que Malta aurait aimé voir sa propre mère apparaître aussi élégamment vêtue, ne serait-ce qu'une fois. Elle sentait la fragrance entêtante des pierres depuis les ombres où elle se dissimulait. La mère de Dilo avait pris son époux par le bras. Il était grand et mince, et le bleu de sa veste et de son pantalon de lin rehaussait la beauté de la robe de sa femme. Ils avaient gravi les degrés qui menaient à la salle de bal comme des personnages sortis d'une légende. Derrière eux, Serwin attendait avec impatience que Dilo eût fini de s'extirper de la voiture. Comme son père, il était vêtu d'une veste et d'un pantalon bleu, avec des bottes d'un noir lustré. Il portait un clou d'oreille en or et ses cheveux pendaient en longues boucles provocantes. Malta, qui le connaissait depuis toujours, avait éprouvé un curieux petit frisson dans le ventre. Jamais elle ne l'avait trouvé aussi beau. Et elle mourait soudain d'envie de l'éblouir par son apparence. Mais c'est elle qui était restée stupéfaite en voyant Dilo. La robe de son ami reprenait la couleur de celle de sa mère, mais là s'arrêtait la ressemblance. Ses cheveux tressés étaient montés en couronne piquée de fleurs fraîches, et un volant de dentelle parait sa jupe courte pour l'amener presque jusqu'à mi-mollet. Une dentelle semblable bordait son col montant et ses poignets. Elle ne portait aucun bijou. Malta n'avait pu se retenir. Elle s'était précipitée vers Dilo tel un esprit vengeur.
« Tu disais que tu allais mettre une robe de grande cette année. Tu disais que ta mère te l'avait promis. »
s'était-elle exclamée.
« Que s'est-il passé ?»
Dilo avait levé son regard vers Malta d'un air pitoyable. Puis elle avait écarquillé les yeux et était demeurée bouche bée, muette d'effarement.
Serwin s'était interposé.
« Je ne crois pas que vous puissiez connaître ma sœur, »
avait-il dit d'un ton hautain.
« Serwin !»
s'était exclamé Malta, agacée. Par-dessus l'épaule du jeune homme, elle s'était adressée à Dilo.
« Que s'est-il passé ?»
Les yeux de Dilo s'étaient encore agrandis.
« Malta, c'est toi ?»« Bien sûr que c'est moi !»«
Ta maman a changé d'avis ?»
Un méchant soupçon était né soudain dans son esprit.
« Tu as dû passer à l'essayage pour ta robe. Tu savais donc que tu n'aurais pas le droit de porter une robe de soirée. »«
Je ne pensais pas que tu viendrais, »
avait fait Dilo d'une voix plaintive, tandis que Serwin Trell demandait incrédule.
« Malta ? Malta Vestrit ?»
Il l'avait parcouru d'un regard qu'on ne pouvait qualifier que de discourtois. Pourtant, elle avait ressenti le même frisson que précédemment.
« Trell ?»
Choukor Kev descendait de son cheval.
« Trell, c'est toi ? Ça fait plaisir de te revoir. Et qui est cette personne ?»
Ses yeux ébahis étaient allés de Malta à Serwin.
« Tu ne peux pas l'amener au bal des moissons, mon vieux. Tu sais bien que c'est réservé aux marchands. »
Le ton qu'il avait employé avait mis Malta mal à l'aise. Une nouvelle voiture s'était arrêtée devant le groupe et le valet avait du mal à ouvrir la portière dont le loquet s'était manifestement coincé. Malta s'était efforcée de ne pas le regarder s'acharner. Cela n'aurait pas été digne d'une grande dame. Mais le valet l'avait aperçu et avait apparemment été si frappé par son aspect qu'il en avait complètement oublié sa tâche.
À l'intérieur de la voiture, un homme corpulent avait alors donné un coup d'épaule dans la portière qui s'était brutalement ouverte, manquant Malta de peu. Et Davad Restart, dans sa splendeur bien en chair, avait failli s'écrouler sur le trottoir.
Le valet avait saisi Malta par le bras pour l'empêcher de tomber au moment où elle reculait vivement pour éviter la portière. S'il ne l'avait pas ainsi tenue, elle aurait pu aisément s'éclipser, et la catastrophe ne se serait pas produite. Mais elle était toujours là quand Davad s'était rattrapé à la portière et il avait carrément marché sur l'ourlet de sa robe.
« Oh, je vous demande pardon !»
avait-il fait d'un ton désolé, et puis les mots lui avaient manqué quand il avait regardé Malta de la tête aux pieds. Transformée comme elle était, elle avait eu la certitude qu'il ne la reconnaissait pas. Elle n'avait alors pas pu résister à l'envie de lui sourire.
« Bonsoir, marchand Restart !»
lui avait-elle dit. Et elle lui avait fait la révérence, mouvement que sa robe longue avait rendu plus difficile à réaliser qu'elle ne l'aurait cru.
« J'espère que vous n'avez pas de mal. »
Mais il avait continué à la dévisager sans répondre, les yeux exorbités. Enfin, il avait ouvert la bouche et réussi à couiner.
« Malta ? Malta Vestrit ?»
Une nouvelle voiture avait pris la place de celle des Trell, d'un vert resplendissant mêlé de dorures, couleur du désert des pluies. Il devait s'agir des représentants des familles de là-bas. Le bal commencerait dès qu'ils seraient installés. Derrière Malta, comme un écho, Shekhar avait répété d'un ton incrédule
« Malta Vestrit ? Non, je peux pas le croire !»«
Et pourtant c'est vrai !» Elle avait souri de nouveau à Davad, ravie de l'air abasourdi avec lequel il regardait son collier, puis la dentelle qui moussait sur sa gorge. Ses yeux s'étaient braqués soudain derrière elle et elle s'était retournée.
Il n'y avait plus personne.
Zut ! Dilo était allé au bal sans elle.
Elle avait reporté son attention sur Davad, mais il jetait des coups d'œil éperdus dans toutes les directions. Alors que la portière de la voiture du désert des pluies s'ouvrait, il avait brusquement pris Malta par les épaules et l'avait placée sans ménagement derrière lui, la faisant presque tomber à la renverse dans sa propre voiture.
« Silence !»
avait-il murmuré d'un ton pressant.
« Ne dites pas un mot !»
Puis, il s'était retourné pour s'incliner profondément devant les représentants du désert des pluies qui sortaient de leur véhicule. Malta avait jeté un regard par-dessus son épaule. Ils étaient trois cette année, deux grands et un petit. Leurs manteaux et leurs capuchons empêchaient d'en voir davantage. Le tissu sombre de leurs manteaux lui était inconnu. Noir quand il restait immobile, il se mettait tout à coup à chatoyer dès qu'il bougeait. L'étoffe prenait alors de lumineuses teintes vertes, bleues et rouges dans la pénombre.
« Marchand Restart ?»
lui avait dit en guise de salut un des mystérieux personnages, une femme à en juger par sa voix flûtée.
« Marchand de Vintali !»
avait-il répondu en s'inclinant encore davantage.
« Je vous souhaite la bienvenue à Terrilville et au bal des moissons. »«
Eh bien, merci, Davad. Puis-je compter vous retrouver à l'intérieur ?»«
Très certainement. Dès que j'aurai mis la main sur mes gants, j'ai dû les laisser tomber dans ma voiture. »
« Quelle incurie !»
La voix de la femme caressait curieusement les mots. Elle avait poursuivi son chemin à la suite de ses compagnons. L'odeur de sueur qui avait tout à coup émané de Restart avait empuanti l'air immobile de l'automne. À l'instant où les portes de la salle de bal s'étaient refermées sur la famille du désert des pluies, il avait pivoté sur lui-même pour faire face à Malta. Il l'avait saisi par un bras et l'avait secoué comme un prunier.
« Où est votre grand-mère »
avait-il demandé d'une voix blanche. Puis, avant même qu'elle pût répondre, il avait ajouté sur le même ton
« Où est votre mère ?»
Elle aurait dû mentir. Elle aurait dû répondre qu'elle venait d'entrer dans la salle ou bien qu'elle venait elle-même d'en sortir pour prendre l'air. Mais elle avait simplement déclaré
« Je suis venue seule. »
Elle avait détourné le regard et plus bas, d'adulte à adulte, elle avait poursuivi. « Depuis la mort de grand-père, elles sont plus casanières que jamais. C'est d'un triste. J'ai compris que si je ne sortais pas, j'allais devenir folle. Vous ne pouvez pas savoir combien la vie est lugubre depuis... » Elle s'était interrompue avec un hoquet de surprise. Il avait resserré sa prise sur son bras et la poussé vers la voiture.
« Vite, avant que quelqu'un d'autre vous voie. Vous n'avez parlé à personne d'autre, j'espère. »
« Je... non. » « Rien qu'à Dilo et son frère. Je viens seulement d'arriver et... Mais lâchez-moi donc, vous froissez ma robe !»
La façon dont il l'avait contrainte à monter dans la voiture, puis suivie d'un air résolu, l'avait choquée et terrifiée tout à la fois.
Qu'avait-il derrière la tête ?
Elle avait entendu des histoires sur certains hommes que la passion et la concupiscence conduisaient à des actes irréfléchis.
Mais Davad Restart ? C'était un vieux. Non, c'était trop dégoûtant.
Il avait claqué la portière, mais cette fois, Le Pen avait refusé de s'enclencher. Il l'avait tenu fermé d'une main et il avait crié
« Cocher, à la résidence des Vestrit, vite !»
Puis il avait dit à Malta
« Asseyez-vous, je vous ramène chez vous. »
« Non, laissez-moi descendre, je veux aller au bal, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas mon père !»
Haletant, le marchand Restart s'accrochait à la poignée de la portière. La voiture avait démarré brutalement, obligeant Malta à s'asseoir sans douceur.
« Non, je ne suis pas votre père !»
avait répondu le gros homme d'un ton sec.
« Et ce soir, j'en sais gré à ça, car je vous jure que j'ignore ce que je ferai de vous. Pauvre Ronica, après tout ce qu'elle a déjà subi cette année,
Votre tante disparaît, et voilà que vous vous présentez au bal des moissons, vêtue comme une catin de Jamélia. Que va dire votre père ?
Il avait tiré un grand mouchoir de sa manche et en avait tapoté son visage couvert de transpiration. Malta avait remarqué qu'il portait la même veste et le même pantalon bleu que les deux années précédentes et qu'il le serrait à la taille. D'après l'odeur de cèdre qui flottait dans la voiture, il n'avait pas dû les sortir de son coffre avant ce soir.
Et il osait lui parler de vêtements et de mode. « J'ai fait faire cette robe sur mesure pour cette soirée, et avec de l'argent que papa m'a donné, dois-je ajouter. Je serais donc fort étonné qu'il me reproche d'avoir employé cette somme comme il me l'a suggéré.
Ce qu'il voudra peut-être savoir, en revanche, c'est dans quel but vous avez enlevé sa fille dans la rue et l'avez emmenée dans votre voiture contre sa volonté. Je ne pense pas qu'il en sera ravi. »
Elle connaissait Davad Restart depuis des années et savait qu'il s'aplatissait facilement quand sa grand-mère s'adressait à lui d'un ton cassant. Elle s'était attendue à ce qu'il manifeste, toute proportion gardée, la même déférence à son égard. Mais, à sa grande surprise, il avait eu un grognement méprisant.
« Qu'il vienne donc me poser la question quand il rentrera au port, et je lui répondrai que j'essayais de sauver votre réputation. Malta, vous devriez avoir honte. Vous !» Une petite fille, vêtue comme la dernière des... Enfin, passons. Mais osez vous montrer ainsi au bal des moissons. Je prie ça, que personne ne vous ait reconnu. Et vous ne me ferez pas croire que votre mère ou votre grand-mère était au courant de l'existence de cette robe ou de votre venue au bal, alors qu'une jeune fille convenable porterait encore le deuil de son grand-père.
Elle aurait pu trouver 10 réponses à cette affirmation. Et de fait, une semaine plus tard, elle les avait toutes imaginées ainsi que le ton sur lequel elle les aurait faites. Mais, sur le moment, rien ne lui était venu à l'esprit. Et elle avait gardé le silence, bouillant d'une colère impuissante, tandis que la voiture la ramenait chez elle en tanguant. Quand ils étaient arrivés à destination, elle était passée en trombe devant Davad Restart afin de descendre et d'atteindre la porte de la maison avant lui. Malheureusement, un gland de sa robe s'était pris dans l'encadrement de la portière. Elle avait entendu un bruit de toile qui se déchire et s'était retournée avec une exclamation de désespoir, mais le mal était fait. Le gland et un empan de soie vert pastel pendaient au chambranle de la voiture. Davad y avait jeté un coup d'œil, puis avait claqué la portière sur le bout de tissu et dépassé Malta à grandes enjambées pour aller sonner violemment la cloche d'entrée. C'est Nounou qui avait répondu. Pourquoi avait-il fallu que ce soit elle? Elle avait posé un œil revêche sur Davad, puis derrière lui sur Malta, qui lui avait rendu son regard d'un air hautain. L'espace d'un instant, Nounou avait eu l'air de quelqu'un qu'on vient d'insulter. Puis elle avait eu un hoquet d'horreur et s'était mise à hurler.
« Malta, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait ?»
Ces cris avaient attiré toute la maisonnée. La mère de Malta était apparue la première et elle avait mitraillé Davad de questions auxquelles il était incapable de répondre. Puis, sa grand-mère, en chemise de nuit et en robe de chambre, les cheveux relevés et tenus par un foulard de nuit, était arrivé pour reprocher à sa fille de susciter un tel remue-ménage à 7 heures de la nuit. À la vue de Malta, elle avait subitement blêmi. Puis, elle avait congédié tous les domestiques sauf Nounou qu'elle avait envoyé préparer de la tisane. Elle avait saisi fermement Malta par le poignet et l'avait emmenée dans l'ancien bureau de grand-père. Puis, elle avait attendu que Davad et Kefria les eussent rejoints et que la porte fût fermée pour se tourner vers elle.
« Explique-toi »
avait-elle ordonné. Malta s'était redressée.
« Je souhaitais me rendre au bal des moissons. Papa avait dit que je pouvais y aller et aussi porter une robe de soirée, comme il sied à une jeune femme. Je n'ai rien fait de répréhensible. »
Elle était d'une dignité irréprochable. Sa grand-mère avait plissé ses lèvres pâles, puis elle avait déclaré d'un ton glacial «
Alors tu es aussi bête que tu en as l'air. »
Elle s'était ensuite détournée de Malta, se désintéressant complètement d'elle.
« Ah, Davad,
Comment pourrais-je jamais vous remercier de l'avoir ramené discrètement? J'espère que vous n'avez pas mis votre propre réputation en péril en sauvant la nôtre. Beaucoup de gens l'ont-ils vu dans cet état?
Le marchand Restart avait eu l'air nettement mal à l'aise.
Pas trop, du moins je le souhaite. Servine Trell et sa petite sœur, quelques-uns de ses amis. Je forme le vœu qu'il n'y ait eu personne d'autre.
Il s'était interrompu, comme s'il se demandait s'il devait mentir ou non.
Les Vintali sont arrivés pour représenter le désert des pluies pendant qu'elle était là, mais je ne crois pas qu'il l'ait vue. Pour une fois, ma corpulence aura peut-être été utile.
Et il s'était passé la main sur le ventre d'un air mi-figue, mi-raisin.
Je l'ai caché derrière moi, puis je l'ai fourré dans ma voiture dès qu'ils ont tourné le dos. Mon valet m'accompagnait, naturellement.
À contre-cœur, il avait ajouté « D'autres familles de marchands allaient et venaient, mais je pense avoir évité qu'on nous remarque trop. » Une expression troublée était apparue sur ses traits, et il avait demandé d'un ton insistant
« Vous n'étiez au courant de rien, je suppose. » À mon grand soulagement ainsi qu'à ma grande honte, je dois avouer que j'ignorais tout de cette affaire,
avait répondu Ronica, la mine sévère. Elle avait braqué un regard accusateur sur la mère de Malta.
Kefria, savais-tu ce que manigançait ta fille?
Puis, sans même attendre de réponse, elle avait poursuivi.
Et si ce n'était pas le cas, comment se fait-il que tu l'aies ignorée?
Malta s'était attendue à ce que sa mère éclate en larmes. Elle pleurait toujours dans ces cas-là. Mais non. Kefria s'en était prise à elle.
« Comment as-tu pu me faire ça ? »
avait-elle demandé.
« Et pourquoi ? Oh, Malta, pourquoi ?»
Un chagrin effrayant perçait dans sa voix.
« Ne t'avais-je pas dit qu'il te suffisait d'attendre ? Que le moment venu, tu aurais droit à une présentation dans les formes ? Mais qu'est-ce qui t'est donc passé par la tête pour faire ça ? »
Sa mère avait l'air anéantie. Un instant, Malta s'était sentie ébranlée.
« Je voulais aller au bal des moissons, je te l'avais dit. Je t'ai supplié je ne sais combien de fois de m'autoriser à m'y rendre, mais tu ne m'as pas écouté, même après que papa m'a donné la permission en me promettant de me laisser porter une vraie robe. »
Elle s'était interrompue en attendant que sa mère reconnaisse avoir souscrit à cette promesse, mais Kefria s'était contentée de la dévisager d'un air atterré. Alors Malta s'était mise à crier.
« Eh bien, si tu es aussi étonné, ne t'en prends qu'à toi-même. Je n'ai fait que suivre la promesse de papa. »
L'expression de sa mère s'était subtilement durcie.
« Si tu savais l'envie que j'ai de te gifler, tu me parlerais sur un autre ton, ma fille. »
Jamais sa mère ne s'était adressée à elle ainsi.
« Ma fille, » avait-elle dit, comme à une domestique. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ?»
avait jeté Malta furieuse.
« De toute manière, ma sortie est fichue. Alors vas-y, frappe-moi devant tout le monde, ce sera le clou de la soirée. »
Elle avait soudain pris la mesure du drame. Tous ses projets étaient à l'eau. Elle en suffoquait. Davad Restart avait l'air atterré.
« Je dois m'en aller, »
avait-il dit en se levant précipitamment.
« Oh, Davad, rasseyez-vous, »
avait répondu grand-mère d'un ton las.
« La tisane arrive. Nous vous devons au moins cela pour le secours que vous nous avez porté ce soir. Ne vous laissez pas démonter par les talons de tragédienne de ma petite fille. L'abattre nous ferait peut-être à tous le plus grand bien, mais nous n'avons jamais eu recours à ce genre d'expédient. Jusqu'ici. »
Elle avait adressé un sourire triste au marchand Restart, et avait même pris la main du petit homme bedonnant pour le ramener à son fauteuil, où il s'était rassis comme elle le lui demandait. Malta en avait eu la nausée.
Ne se rendait-elle pas compte du personnage répugnant que c'était, avec sa figure et son crâne déplumé tout luisant de sueur et ses vêtements démodés qui ne lui allaient plus? Pourquoi le remerciait-elle donc de l'avoir humilié?
À cet instant, Nounou était entrée avec la tisane et des tasses sur un plateau.
Une bouteille de vin cuit était coincée sous son bras et une serviette drapée sur le même bras. Elle avait déposé plateau et bouteille sur la table, puis avait tendu la serviette à Malta. Le tissu était humide.
« Nettoyez-vous le visage !»
lui avait ordonné la vieille domestique d'un ton brusque. Les adultes avaient tous remarqué Malta, puis détourné les yeux. Ils lui accordaient un semblant d'intimité pour obéir, et Malta leur en avait été reconnaissante. Puis tout à coup, elle avait pris conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils la sommaient de s'essuyer la figure comme un enfant malpropre.
« Non !»
avait-elle alors crié en jetant la serviette par terre. Un long silence s'en était suivi, et puis sa grand-mère lui avait demandé sur le ton de la conversation
« Te rends-tu compte que tu as l'air d'une prostituée ?»«
Ce n'est pas vrai !»
avait protesté Malta. Le doute l'avait à nouveau saisi, mais elle l'avait promptement chassé de son esprit.
« Serwin Trell n'avait pas l'air de me trouver repoussante tout à l'heure. Ma robe et mon maquillage sont à la dernière mode de Jamelia. »«
Chez les putains, peut-être, »
avait répondu grand-mère, implacable.
« Et je n'ai pas dit que tu étais repoussante. Simplement, tu n'es pas séduisante à la façon dont une femme convenable peut l'être. »
Davad Restart, mal à l'aise, avait essayé de placer un mot.
« À la vérité !»
Grand-mère avait poursuivi sans lui prêter attention.
« Nous ne sommes pas à Jamelia, et tu n'es pas une putain. Tu es la fille d'une respectable famille de marchands, où l'on ne s'affiche pas en public à demi nu et le visage peinturluré. Apparemment, ce point t'avait échappé.
« Alors je voudrais être une putain de Jamelia !»
avait déclaré Malta avec chaleur.
« Tout plutôt que de continuer à étouffer ici. Tout plutôt que d'être obligée de m'habiller et de me conduire comme une petite fille, alors que je suis une femme presque faite, obligée de toujours me taire, me montrer polie, rester invisible. Je ne veux pas de cet avenir. Je ne veux pas devenir comme toi et maman. Je veux être belle. Je veux qu'on me remarque. Je veux m'amuser. Je veux que les hommes aient envie de m'approcher, qu'ils m'envoient des fleurs et des cadeaux. Je n'en peux plus de m'habiller à la mode de l'année passée, de rester calme et posé en toutes circonstances. Je veux... »
« À la vérité, » avait répété Davad d'un ton gêné, « une telle mode existe en effet à Jamelia depuis l'année dernière. Une des compagne du gouverneur est apparue ainsi parée, déguisée en femme des rues. Ce n'était pas lors d'une cérémonie publique, mais au cours d'une réunion très considérable néanmoins. Elle voulait proclamer par là sa dévotion absolue au gouverneur et à ses désirs. Elle se déclarait prête à... être considérée et traitée comme ça... Eh bien... » Davad prit une profonde inspiration. « C'est là un sujet que je n'aborderai jamais avec aucune d'entre vous en d'autres circonstances, » précisa-t-il avec embarras. « Mais les faits se sont produits, et on en a vu, disons, l'écho dans la mode durant le mois suivant. » Le maquillage des oreilles, les volants, des graffables, des jupes. Il avait rougi violemment et s'était tu. Grand-mère avait secoué la tête avec colère.
« Voilà donc où en est arrivé notre gouverneur. Il rompt les serments de son grand-père et de son père et réduit les compagnes de son cœur au rôle de prostituées. Consacré à l'assouvissement de ses appétits charnels. Il fut un temps où c'était une fierté pour une famille d'avoir une de ses filles nommée compagne, car c'était une fonction qui exigeait de la sagesse et de la diplomatie. À quoi servent ces femmes aujourd'hui? De harem au gouverneur? Cela me dégoûte.
et je refuse que ma petite fille se pare comme elle, si populaire que soit cette mode.
Tu veux que je devienne une rombière mal fagotée, comme maman et toi ?
S'était exclamé Malta.
Tu veux que je sois vieille sans même avoir eu le temps d'être jeune ? Eh bien non, ce n'est pas ce que je veux, moi.
Jamais je ne me suis adressé ainsi à ma mère, avait fait soudain Kefria. Et je ne tolérerai pas que tu emploies ce ton avec ta grand-mère.
Si. Si tu avais haussé la voix devant elle, tu aurais peut-être vécu,
l'avait interrompu Malta.
Mais non, je parie que tu lui as toujours obéi docilement sans jamais répondre, comme une vache de concours. Montrer une année, marier la suivante, comme une belle vache bien grasse vendue aux enchères. Une saison pour danser et s'amuser, et puis on te marie pour donner des enfants au premier qui offre la plus grosse somme à tes parents. »
Elle avait promené son regard sur ses auditeurs choqués.
« Ce n'est pas ça que je veux, maman. Je veux vivre pour moi-même. Je veux porter de jolies toilettes, voir des endroits merveilleux. Je ne veux pas épouser un gentil petit marchand que tu auras choisi à ma place. Je veux aller à Jamelia un jour. » Je veux aller à la cour du gouverneur, et pas comme une femme mariée qui traîne derrière elle un chapelet de gosses. Je veux être libre, je veux...
Tu veux notre ruine, avait dit grand-mère d'une voix posée. Tout en servant la tisane à gestes calmes et efficaces, elle avait accablé Malta.
Tu veux, répètes-tu, sans accorder la moindre pensée à ce dont nous avons besoin.
Elle avait levé les yeux de sur la bouilloire pour demander
« Tisane ou vin cuit, Davad ?»« Tisane, »
avait-il répondu, soulagé de changer de sujet.
« Mais je ne pourrai pas rester longtemps. Je dois retourner à la soirée, au moins pour la présentation des offrandes. Vous le savez, je n'ai personne à qui déléguer ma présentation. » Et la marchande Vintali paraissait désireuse de me parler. On ne vous attendra pas naturellement cette année à cause de votre deuil.
Il avait laissé sa phrase en suspens, embarrassé.
Tisane, très bien,
avait fait grand-mère, rompant élégamment le silence gêné. Son regard s'était porté vers la vieille domestique.
Nono, « je m'en veux de vous demander cela, mais pourriez-vous mettre Malta au lit ? Veillez à ce qu'elle se nettoie bien le visage d'abord. Je regrette de vous imposer cette tâche. »«
Je vous en prie, maîtresse, c'est ma fonction. »
Et Nounou avait fait son devoir. Grande et implacable comme à l'époque où Malta était enfant, elle avait pris la jeune fille par le poignet et l'avait entraînée dans sa chambre. Malta n'avait pas protesté, non par esprit d'obéissance, mais afin de préserver sa propre dignité. Elle n'avait pas résisté quand Nounou l'avait déshabillée, et elle s'était plongée de son plein gré dans le bain fumant que la vieille servante avait fait préparer à son intention. De fait, elle n'avait pas dit un mot à l'impérieuse bonne d'enfant, pas même pour interrompre son ennuyeux monologue sur la honte qu'elle aurait dû ressentir. Car Malta n'éprouvait aucune honte, et leur tentative d'intimidation n'avait pas eu prise sur elle. Quand son père rentrerait, ils auraient tous à répondre de la façon dont il l'avait traitée. Pour l'instant, elle se contenterait de cette perspective, et aussi du frémissement que le regard de Serwin Trell avait suscité en elle. Elle revit les yeux du jeune homme posés sur elle, et la même sensation l'envahit. Au moins, Serwin savait, lui, qu'elle n'était plus une petite fille.